Le Mag Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'animer ce début d'émission avec Olivier Amard du Journal des entreprises. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
Vous recevez aujourd'hui la Scholtaise Astrid Le Fur à l'occasion de la sortie de son ouvrage sur le burn-out.
Oui, Astrid Le Fur, coach professionnel basé à Cholet. Vous venez de faire paraître aux éditions Vuibert un ouvrage qui s'appelle « Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance ». C'est tiré à l'origine de votre propre expérience. Vous pouvez nous expliquer comment et quelle est la genèse de ce livre ?
Oui, bien sûr. Au départ, je suis ingénieure de formation et rien ne me prédestinait à écrire un livre, en tout cas dans ce que je pensais de ma vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, j'ai vécu un épuisement professionnel. Mon vécu, c'est que ça m'est tombé dessus sans que je comprenne pourquoi. Et à ce moment-là, j'étais chargée de recherche. Donc mon travail, c'était la recherche scientifique. Et je me suis dit, ben voilà, mon nouveau job, c'est de comprendre ce qui se passe et d'expliquer ce que c'est que le burn-out. Suite à ça, en 2019, est né un blog, Partage ton burn-out, où j'ai voulu transmettre tout ce que j'avais compris, des témoignages aussi de personnes qui le vivaient. Et c'est tout naturellement que quelques années plus tard, ce blog s'est transformé en livre.
Vous parlez d'épuisement professionnel. Votre livre s'appelle « Du burn-out au burn-out ». Épuisement professionnel, burn-out, c'est la même chose ou pas ? Déjà,
oui,
ça sonne pas pareil.
Alors, ça sonne pas pareil. Et oui, c'est la même chose. En français, on utilise souvent ce terme « épuisement professionnel » quand on parle en termes médical. Pourquoi moi j'ai choisi le mot burn-out ? Tout simplement parce qu'à l'époque, en 2016, quand je me suis retrouvée en arrêt de travail et que mon médecin m'a dit que c'était un épuisement professionnel, j'ai cru que c'était une grosse fatigue, qu'il suffirait que je me repose, que j'allais dormir peut-être une semaine ou deux semaines et que ça irait mieux. Et ça n'avait rien changé. Ce que disent certains experts, c'est que c'est un effondrement de l'âme. C'est quelque chose de bien plus profond qu'une fatigue physique. C'est pour ça que moi j'utilise ce mot burn-out qui représente toute l'image de l'immeuble en flammes. Et on voit bien qu'après la destruction d'un immeuble, il ne suffira pas de se reposer pour aller mieux.
Bastien l'a évoqué tout à l'heure, on parle de plus de 2,5 millions de personnes en France, ce qui est énorme comme chiffre.
Oui, c'est un chiffre énorme. C'est vraiment une réalité du monde du travail actuel. Et c'est un chiffre qui est en croissance. Donc bien sûr, ça existait avant. Mais aujourd'hui, l'environnement de travail dans lequel on est, les processus, les attentes aussi des salariés au travail sont différentes d'avant. Et c'est ce qui explique le fait que ça explose aujourd'hui. La crise sanitaire qu'on a vécue a été un vecteur d'explosion. C'est pas une cause. Ça, c'est important à comprendre. C'est pas à cause de la crise sanitaire ou économique ou quelle qu'elle soit. Mais c'est un moment où c'est venu fracturer quelque chose qui était déjà fragile. Et c'est pour ça que ça explose d'un coup et qu'on trouve tant de personnes autour de nous qui sont concernées.
Ça se traduit par quoi ?
Ça se traduit comment ? Alors d'abord, pour les personnes qui le vivent, c'est comme le corps qui trahit la personne. C'est le corps qui refuse d'aller au travail. Dans leur mental, dans leur tête, elles voudraient continuer à y aller, mais elles sont incapables physiquement de le faire. Donc c'est ce moment de fracture du jour au lendemain où on n'est plus en capacité d'aller travailler. Donc ça, c'est la part physique qu'on voit et qui est quelque part spectaculaire ou incompréhensible d'ailleurs pour les gens autour. Mais il y a aussi une dimension psychologique et émotionnelle au burn-out. Ces trois dimensions sont importantes.
Ça se traduit par des troubles physiques, vous le dites. Il y a des troubles qui sont plus profonds. Est-ce qu'on arrive à identifier un burn-out à chaque fois ?
Alors c'est très complexe. D'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que c'est un syndrome, donc un ensemble de symptômes communément trouvés ensemble. Donc c'est l'adjonction de plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont physiologiques, physiques, comme vous l'avez mentionné. C'est le corps qui se détraque. C'est des maladies, alors des douleurs au dos, articulaires, souvent des troubles au niveau du cœur, cardiaque, qui vont être incompréhensibles au niveau biologique. On ne va pas comprendre la raison. Ça peut être des migraines, des troubles intestinaux. Donc il y a une centaine de signes. Donc c'est là qu'on comprend que c'est compliqué, parce que c'est la multitude de ces signes qui doit inquiéter. Et le fait de ne pas trouver de cause organique à tous ces signes.
Est-ce que c'est parce que justement c'est complexe à déceler que ce n'est pas reconnu en tant que tel comme une maladie professionnelle ?
Alors c'est une bonne question. Pourquoi c'est pas reconnu ? Je fais pas partie des discussions de pourquoi ils l'ont pas défini comme une maladie ou pas. Ce qui est dit, c'est que cet ensemble de symptômes correspond à d'autres maladies qui sont déjà décrites, comme la dépression, le trouble anxieux. Donc en fait, c'est d'autres mots qui sont posés au moment de l'arrêt de travail, ce qui est souvent très perturbant pour la personne, puisqu'on lui dit qu'elle fait un épuisement professionnel ou un burn-out. Et sur l'arrêt de travail, il y a un autre mot qui est écrit.
Qui le pose, ce diagnostic ?
C'est le médecin traitant qui est la première personne à poser le diagnostic et à définir le moment où la personne doit se mettre en repos pour se soigner.
Comment on le décèle, le burn-out, ou plutôt comment est-ce qu'on peut le prévenir dans une entreprise, ce burn-out ?
Ça, c'est intéressant comme question, parce que vraiment là où moi j'ai envie d'intervenir, au-delà d'aider les personnes qui sont concernées, c'est d'agir en amont pour le prévenir, pour éviter que ça arrive et baisser ce chiffre qui est effarant. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a différents niveaux. Au niveau de l'équipe, quand on est en relation directement avec les individus, eh bien, déjà, prendre soin de voir comment vont les personnes. Ce qu'on observe quand une personne est en burn-in, c'est-à-dire avant l'arrêt de travail pour burn-out, c'est qu'elle va développer des symptômes physiques et comportementaux. Un salarié qui commence à avoir des petits arrêts, qui part plus tôt parce qu'il a une migraine, qui a l'air préoccupé, qui n'arrive plus à s'impliquer, ou dont le comportement change, il devient irritable, colérique, ou il s'isole. C'est quelque chose qui doit alerter et qui doit ouvrir à une discussion avec le manager ou les services ressources humaines. Ça, c'est ce qu'on voit quand on est proche de la personne. Quand on est à grande échelle, si on est le service ressources humaines, on ne voit pas chacun des salariés. On peut regarder les chiffres de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une hausse des petits arrêts, puisqu'il y a tout un tas de petites maladies ou d'accidents qui arrivent avant le burn-out? Est-ce qu'il y a une prolongation des arrêts maladie? D'habitude, les gens s'arrêtent 2-3 jours quand ils ont un virus. Mais là, est-ce que ça s'allonge? Il faut même prendre en compte les arrêts liés à la maternité. Parce que souvent, quand on est dans cet état de stress, on va partir plus tôt en congé maternité ou on va revenir plus tard. Et quelque part, c'est une bonne excuse de dire c'est normal, c'est parce que je suis enceinte. C'est plus facile que d'aborder des conversations courageuses et de dire qu'il y a un environnement de travail qui est difficile.
Une fois qu'on a identifié tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, agir concrètement, c'est oser avoir ces conversations difficiles. Oser réunir l'équipe pour dire, on remarque que il y a de plus en plus de personnes qui sont en arrêt ou moins d'engagement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui génère cet état de stress chronique? C'est ça qui génère le burn-out, le stress chronique, le stress qui dure trop longtemps ou qui est trop intense. C'est normal d'avoir des pics de stress, ça fait partie de la vie normale. Mais quand ça dure et que c'est prolongé sur plusieurs mois, c'est là que ça devient toxique.
Dans votre ouvrage, vous avez analysé 7 étapes jusqu'à la reconstruction, je dirais. Quelles sont-elles, ces 7 étapes?
La première étape, c'est une étape d'euphorie. Alors, on pourrait se dire, c'est bizarre, l'euphorie, c'est pas un mot très négatif pour le burn-out. Parce qu'en fait, ça commence bien avant l'arrêt de travail. Ce que je dis, c'est que c'est dans cette étape que se plantent les graines, que la personne va construire une personnalité quelque part de super-héros qui fait qu'elle ne va plus pouvoir sortir du cercle vicieux du burn-out et que l'entreprise va aussi prendre l'habitude d'un niveau de performance élevé et donc va penser que c'est normal de produire toujours autant. Ça, c'est l'euphorie. Ensuite, suit l'étape dont je vous ai parlé qui s'appelle le burn-in. La personne commence à s'épuiser. De l'extérieur, ça ne se voit pas vraiment, ou pas beaucoup, à moins qu'on ne connaisse les symptômes dont je vous ai parlé notamment. Mais petit à petit, elle commence à user ses ressources. À ce moment-là, si on arrête le cercle vicieux, on peut revenir en arrière et tout va bien. En général, c'est une période de déni. Ni la personne, ni son environnement de travail n'a envie de voir que quelque chose ne va pas. C'est un moment où la personne est extrêmement performante, même s'il y a des symptômes à côté. C'est très vicieux. On passe à la phase 3, que j'appelle la chute du burn-out. C'est ce que la plupart des gens appellent le burn-out. C'est le moment où le corps ne peut plus aller au travail. On se retrouve en général en arrêt. Ce qui suit cette période-là, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique à l'époque. C'est une phase que j'appelle la décompression, dépression, décompensation. C'est une phase qui est très difficile parce que souvent, on se dit que le diagnostic est posé, on est en arrêt de travail, ça va aller mieux. Et en fait, pas du tout. C'est une phase très difficile où le corps lâche tout ce qu'il a retenu pendant des mois. L'image que j'utilise, c'est celle du marathon. On dit 41 km, 41 jours de récupération. Imaginez des mois de stress chronique, le temps que ça dure à récupérer les douleurs qui arrivent dans le corps, psychologique et physique après. Donc ça, c'est important à savoir et c'est normal parce que souvent les gens ont très peur. Passer cette phase-là, les deux phases suivantes sont les phases de remontée de la pente, la récupération, où c'est essentiel de prendre soin de soi. C'est la phase de thérapie, de renouer avec le bien-être, avec le fait d'écouter son corps. Souvent, c'est les gens qui ne s'écoutent pas assez qui font des burn-out. Et la toute dernière, la reconstruction, la nouvelle vie, le moment où on pense le retour au travail. Est-ce que je retourne au même endroit? Si oui, qu'est-ce que je change? Et dans mon rapport au travail et dans l'environnement de travail, c'est important d'aborder les deux. Si la réponse est non, parce que quelque part, il y a un écart qui est trop important et ce n'est pas possible ou pas souhaitable, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Et c'est seulement à ce moment-là qu'on y pense. Souvent, c'est dès le début de l'arrêt que les personnes essaient de se projeter, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le bon moment.
On parle burn-out des salariés, il existe aussi un burn-out des dirigeants d'entreprise. C'est la même démarche, c'est la même chose en fait.
Oui, le dirigeant vit la même chose, ces étapes, on les retrouve quel que soit le type de profession. D'ailleurs, c'est bien important effectivement de prendre en considération que tout le monde peut être touché. Bien souvent, on pense à des salariés et on pense à des cadres du privé. Ça touche tout le monde, ça peut toucher des gens du public, ça peut toucher le dirigeant lui-même de l'entreprise. C'est d'ailleurs très difficile quand on est dirigeant parce que souvent, on est bien moins protégé finalement que quand on est salarié. Et quelque part, quitter un bateau qui est le nôtre, c'est très compliqué.
C'est un côté tabou, encore.
Et ça a un côté tabou. Quelque part, il y a une espèce de pensée collective qui dirait que c'est un problème de faibles ou de fainéants qui n'ont pas envie d'aller travailler. Or, au contraire, ce sont les forts, les battants, les perfectionnistes, ou ce que j'appelle les gentils, ceux qui pensent aux autres avant eux-mêmes, qui sont les plus à risque de vivre un burn-out.
Est-ce qu'il y a une corrélation entre le possible, la crainte de faire un burn-out et le phénomène dont on entend beaucoup parler en ce moment, le fait de la démission silencieuse, le fait d'en faire le moins possible au travail, justement pour avoir une vie privée, vie perso, plus en amont, plus respectée?
Ça, c'est une bonne question. Est-ce que la peur génère une protection ou est-ce que ce ne sont pas déjà des gens épuisés qui, je vous ai dit, il y a un changement de comportement, qui se retirent du monde du travail parce qu'en fait, ils sont déjà épuisés.
Dernier point, Astrid Lefeur, vous intervenez dans les entreprises, faites du coaching et non du consulting, parce que les solutions, il faut les trouver en interne, c'est les personnes elles-mêmes qui doivent les trouver dans l'entreprise.
Oui, exactement. Ce que j'aime à dire, c'est que moi, je ne suis pas là pour sauver les autres, chacun se sauve lui-même. Donc, chaque individu, vis-à-vis de lui-même, de son rapport au travail, et chaque entité elle-même, c'est une entreprise qui trouve les bonnes solutions. Et ça, c'est important parce que quelque part, si moi j'arrivais avec des solutions toutes faites, elles seraient forcément mauvaises.
Alors, votre ouvrage est sorti tout récemment, hein, du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance, c'est aux éditions Vuibert, et vous proposerez à Cholet, le jeudi 20 octobre à 19h, une conférence à l'amphithéâtre du lycée de la Providence, 5 piliers pour prévenir le burn-out en entreprise, et
On peut s'inscrire sur HelloAsso, donc pour trouver, c'est très simple, on tape HelloAsso conférence burn-out Cholet, et c'est le premier lien qui apparaît.
Merci beaucoup.
Merci Astrid Lefeur. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes coach professionnel implanté à Cholet, experte en prévention et accompagnement du burn-out auprès des entreprises et de leurs salariés. Olivier, je vous garde encore un instant avec moi. On prend le temps, comme chaque semaine, de faire le point sur le reste de l'actualité économique qui a marqué notre territoire ces derniers jours.
Oui, quelques infos éco avec la start-up angevine Metave RS qui vient de lever 3 millions d'euros auprès d'investisseurs étrangers et français. C'est une société qui accompagne les marques dans les univers virtuels pour vendre dans le métavers, écosystème virtuel immersif, des NFT, des jetons cryptographiques auxquels est rattaché un certificat de propriété numérique. La start-up a été lancée fin janvier 2021. Metaverse a entamé sa première levée de fonds dès le printemps dernier et a effectué un tour de table de près de 3 millions d'euros, donc auprès d'investisseurs asiatiques à Singapour et en France. L'entreprise compte déjà plus de 20 salariés. Et puis TGS France, le groupe spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et les services aux entreprises, a intégré une société de conseil, Quadrinov, créé en 2013 à Angers. Quadrinov compte 11 collaborateurs et accompagne les entreprises autour de la R&D et de l'innovation pour la gestion et la structuration de projets. TGS France renforce ainsi son pôle consulting, une activité que le groupe voudrait voir grimper à une cinquantaine de personnes d'ici 2026.
Le Mag Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises.